le 6-9 de l'été sur France Inter.
On prend un livre pour le voyage. On vous propose encore mieux cet été sur Inter. Un livre pour voyager, que vous restiez à la maison ou que vous vous évadiez très loin. Et pour éviter l'excédent bagage, Jacqueline Pétros nous a fait une petite sélection format poche. Cette semaine, elle nous propose une échappée dans le temps, dans le Montparnasse des années 1900. Un récit de Jean-Paul Caracalla à la Petite Vermillon.
Désormais, c'est une légende dorée, mais la vie, elle, ne l'était pas pour la majorité des artistes. Ils quittaient la butte Montmartre que les touristes commençaient à envahir et dont les établissements attiraient plus de rupins que d'artistes. Et ils ont pris leur quartier autour du boulevard Montparnasse, dans les petites rues encore champêtres et dont les ateliers avaient encore de modestes loyers. On danse, on chante, on boit. Certains artistes déjà célèbres aiguisent les railleries des petits nouveaux comme les surréalistes qui aiment mettre la pagaille dans les moments solennels qu'ils rejettent. Et à Montparnasse, la vie nocturne s'en trouve bien agitée.
Le banquet donné en l'honneur du poète Saint-Paul Roux le 21 juillet 1925 à la Closerie des Lilas a tourné court. Madame Rachilde, auteure de « Monsieur Vénus » et épouse d'Alfred Valette, directeur du Mercure de France, liée au mouvement symboliste, préside la table d'honneur. André Breton n'avait guère apprécié la réponse qu'elle avait faite à une enquête d'un journaliste de Paris Soir. À la question « Un Français peut-il épouser une Allemande ?», elle avait répondu qu'un mariage entre un Français et une Allemande était non seulement intolérable, mais inenvisageable. Pensant à son ami Max Ernst, allemand francophile, Breton se réservait de lui dire, à l'occasion, ce qu'il pensait de son patriotisme absurde et grotesque. À la table d'honneur, Rachilde prend la parole pour un discours de circonstance. Le ton en est monotone et à peu près inaudible. Florent Fels et André Masson commencent à s'impatienter. Fels dit à haute voix « Elle nous emmerde ». Breton entend l'apostrophe et s'empresse d'ajouter haut et fort « Il y a longtemps que cette dame nous emmerde ». Le pauvre Saint-Paul Roux, venant de son manoir breton de Coëcilian, peu au courant des mœurs littéraires parisiennes, navré du manque de civilité de ces jeunes énergumènes, s'empresse de réclamer un peu de galanterie. On lui crie « La galanterie, on l'emmerde ».
La bohème, c'est romantique, hein, mais ça laisse le ventre vide. Se regrouper permet de mieux supporter la misère. Dans la plaine de Vaugirard, près des abattoirs, il y a de grands terrains et des vestiges de l'exposition universelle. Eh bien, la ruche va y naître.
Le sculpteur Alfred Boucher se rend acquéreur en 1900 d'un terrain dans la plaine de Vaugirard, dans le but de permettre à un certain nombre d'artistes de travailler et de se loger moyennant un loyer modique. Parmi les locataires, quelques originaux, faux artistes, mais vrais démons, se mêlent à l'essaim industrieux. Que dire du peintre russe Sam Granovsky, criant du haut de la rotonde « Moi, génie ! Moi, génie !» Viendront s'installer ensuite Marc Chagall et Ossip Zadkine en 1910, Henri Laurence et Amedeo Modigliani en 1912, Diego Rivera, Chaim Soutine en 1913. Quand arrivent les années noires de l'occupation allemande, de nombreux artistes émigrés quittent Montparnasse ou sont arrêtés, puis déportés. Profitant de l'abandon de la ruche, des bouchers des abattoirs de Vaugirard voisins occupent la plupart des ateliers vides.
Dans les années 70, Montparnasse devient un quartier moderne. L'âme des poètes s'évanouit, lentement. Montparnasse, l'âge d'or de Jean-Paul Caracalla, est publié dans la collection La Petite Vermillon, à la table ronde.
Un livre dans la poche, merci. Jacqueline Pétros, réalisation Juliette Gou. Et vous aurez peut-être connu la voix aux lectures de Frédéric Pommier.